dimanche, pour quel candidat faudra-t-il voter ? Désolé, mais n'attendez pas une réponse de Radio Présence. À J-2 du premier tour de l'élection présidentielle, il est besoin de comprendre sur quoi va reposer le choix de chacun. Nous sommes pour cela guidés par François Daguet, religieux dominicain et doyen de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Bonjour père.
Bonjour Isabelle.
L'exercice du droit de vote doit être précédé d'un discernement. Notre série d'entretiens sur la présidentielle a abordé les thèmes de la protection de la vie, le soutien de la famille, l'écologie, l'accueil des migrants, la place des religions dans la société. Et Radio Présence a voulu ainsi accompagner ses auditeurs dans leur discernement. Outre ces éléments de réflexion que nous avons posés ces semaines précédentes, quels conseils donneriez-vous, frère François Daguet, pour opérer un bon discernement ?
Écoutez, depuis qu'on s'interroge, ça fait quand même assez longtemps, on peut remonter au moins à Socrate, si vous voulez, sur ce qui doit guider la vie de la cité ou des cités auxquelles on appartient. Donc c'est la question de la politique, si vous voulez, on dit quelquefois du politique, hein, ça vient de polis, la cité. Depuis qu'on réfléchit, justement, l'enjeu, chez tous les penseurs, finalement, au fond, de quel obédience qu'il soit, c'est d'arriver à imposer un choix qui soit rationnel au sens où ce soit la raison humaine, commune d'ailleurs à chacun justement, qui guide le choix. Le choix que l'on pose, notamment quand on va porter son suffrage sur un candidat ou sur un parti, soit vraiment un acte de la raison. Et si je vous dis cela, c'est qu'immédiatement, au fond, cette primauté de la raison, si on la prend au sérieux, exclut, en principe, si vous voulez, un vote qui soit fondé sur la passion, l'émotion ou les passions. On sait très bien, si vous voulez, quand on vote, on peut être saisi. On sait très bien que le domaine politique est un domaine où les passions sont très vives. On peut être saisi par l'agacement, par le ressentiment, voire par la haine, n'est-ce pas,
hein ? Oui, ou un sentiment de rejet aussi.
Exactement.
Peut-être.
Alors ça, c'est l'émotion, si vous voulez. L'enjeu, c'est que la raison vienne rectifier ces passions. De façon que notre choix soit vraiment un choix rationnel. C'est ce qui caractérise vraiment, je crois, la grandeur d'un choix politique et qui caractérise les êtres humains.
Et un choix rationnel qui permet aussi peut-être de ne pas se laisser illusionner par les promesses ou par les postures, de garder justement un petit peu de recul alors.
Eh bien justement, ça demande de prendre en considération un certain nombre de facteurs, sans forcément se livrer à des analyses comme on en entend quelquefois fort longues, mais on voit très bien que, au fond, si on réfléchit très simplement, notre choix, justement, qu'est-ce qu'il va prendre en considération ? À la réflexion, il me semble qu'il y a deux facteurs, deux critères, si vous voulez, qui interviennent. Il y a d'abord le choix quant aux objectifs poursuivis. Qu'est-ce que l'on veut faire, hein ? Et c'est ce qu'expriment en général les programmes de gouvernement. Au fond, pour parler en termes classiques, je dirais les biens que l'on poursuit, hein, pour la cité et pour les citoyens. Bien. Et puis le deuxième critère, qu'on ne peut pas laisser de côté, c'est celui qui s'attache, là en l'espèce, quand on a affaire au choix d'une personne, à la personne elle-même. C'est très bien d'avoir de très bons objectifs, nous supposons, encore faut-il être capable de les mettre en œuvre.
Donc il faut vérifier que la personne soit capable de mettre en œuvre ce qu'elle propose.
En principe, on doit s'assurer, mais on le fait d'ailleurs, je pense, un peu spontanément, qu'il y a une espèce d'adéquation, si vous voulez, entre les objectifs, le programme, le discours, si vous voulez, exposant le programme, et la détermination à le mettre en œuvre. Hein, on sait très bien qu'on peut avoir de très bonnes... On voit ça dans la vie personnelle. On peut avoir de très bonnes idées et manquer de courage pour vivre selon ces idées, si vous voulez. Voilà. Donc, je crois que ce sont très spontanément, on voit bien que ce sont les deux facteurs, si vous voulez, qui en tout cas sont pris en compte dans un choix, comme je dis, rationnel. Enfin, la raison humaine va s'interroger sur ces deux terrains.
Mais en examinant le programme des différents candidats, nous pouvons discerner différents objectifs. Il y a ceux qui sont propres à la vie en société et ceux qui sont attachés à la personne elle-même, la personne humaine elle-même. Comment mener une réflexion pour prioriser ces objectifs ?
Alors, peut-être, je formulerai peut-être ça un tout petit peu différemment, parce que il n'y a pas la société d'un côté et la personne
oui,
de l'autre.
Oui, tout est lié, hein, bien sûr.
Parce que les membres de la société, ce sont des personnes,
bien
justement.
Sûr.
Je serais porté à dire, il y a et on le perçoit bien, là encore, très spontanément, ce que j'appellerais les options générales de gouvernement. Hein, alors là, qui évidemment intéresse le gouvernement du monde commun qui est le nôtre, autant qu'il soit entre les mains d'ailleurs des acteurs politiques, hein, parce qu'ils ne sont pas les seuls à régir le monde commun, bien entendu. Mais je veux dire par là que, on voit très bien, il y a des choix à faire et des débats sur les terrains de la politique étrangère, de la politique de l'immigration, de la politique fiscale. Vous pouvez être favorable à tel régime ou à tel autre. Bon. J'allais dire, c'est l'ordre courant, normal, qui appelle le débat, justement, le débat démocratique. C'est ce qui fait d'ailleurs la grandeur d'un État démocratique, c'est qu'il va y avoir débat sur ces questions. Et au fond, c'est dans un régime démocratique, c'est la loi de la majorité qui l'emporte, sachant que cette loi de la majorité, elle peut changer plus tard. Bon, voilà, bon, c'est le jeu démocratique. Et puis effectivement, il y a d'autres, on voit bien qu'il y a aussi... à l'intérieur de cela, mais aussi quelquefois au-dessus de cela ou en deçà, parce que ça sous-tend tout l'ensemble, des enjeux qui sont, j'allais dire, pour pas employer un grand mot, des enjeux d'ordre éthique. Et alors qui touchent, si vous voulez, à la personne, justement, mais pas seulement à la personne dans sa singularité, qui touchent également à la communauté humaine. Vous voyez, n'oubliez pas que la personne, elle a une dimension communautaire. Donc, et au fond, ça engage quoi, pour parler simplement? Vraiment le bien des personnes, hein, comme dit l'enseignement de l'Église, hein, les biens fondamentaux de la personne et des communautés humaines. Ce que l'on appelle, le terme est désormais à retrouver vigueur, n'est-ce pas, le bien commun. De quoi s'agit-il? Alors, c'est un bien véritable que l'on doit poursuivre. Et ça, évidemment, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et on perçoit bien que c'est pas tout à fait du même ordre que les premiers choix qui portent sur les enjeux de
gouvernement.
De gouvernement général, si vous voulez.
Oui. Et pour tout électeur catholique, est-ce qu'il faudrait nécessairement prendre en compte ce que disent les candidats à propos justement de l'homme avec un grand H, ou est-ce qu'il y a là aussi un équilibre à trouver, est-ce qu'il y a une priorité à donner?
Ben, justement, je crois que c'est là que indiscutablement l'électeur catholique est sollicité. Hein. Il ne faut pas se voiler la face et ce ne serait pas honnête que de ne pas le reconnaître, parce que précisément ces grands enjeux concernant alors l'homme avec un grand H, j'ai envie d'ajouter, ou la communauté humaine avec un grand
bien
C,
sûr. Hein,
toujours. Nécessairement, on doit les prendre en compte. Hein. D'ailleurs, il y a vous voyez, le Concile Vatican II, qui reconnaît, hein, au fond, la légitimité de l'ordre politique en soi, il a ses lois, justement, bien, en même temps, dit, bien, cela, l'Église le respecte, mais elle ne s'interdit pas de porter un jugement moral lorsque sont en cause, justement, les biens fondamentaux de la personne, ou le salut des âmes et les biens fondamentaux concernant les communautés humaines. Donc, un électeur catholique, en principe, doit prendre en considération cela. Et je constate que, tous les papes, en tout cas depuis le Concile, et très spécialement Jean-Paul II, Joseph Ratzinger à son époque, Benoît XVI après lui, le pape François encore, invite à prendre en considération ces grands enjeux qui touchent à la personne humaine et au sens des communautés humaines elles-mêmes.
Oui, le pape Benoît XVI, alors cardinal Ratzinger, parlait de principes éthiques qui ne sont pas négociables.
Oui, la formule avait fait couler beaucoup d'encre, justement, parce que en affirmant qu'ils ne sont pas négociables, il affirmait que leur prise en considération devait primer et doit primer dans les choix rationnels, précisément, que l'on fait, si vous voulez, par-delà les choix de politique générale qu'on évoquait précédemment.
Oui, grande exigence. Alors, l'électeur est confronté finalement à une alternative. Est-ce qu'il va devoir voter selon ce que sa conscience lui dicte, ou bien va-t-il devoir se résigner à un choix le moins mauvais possible ou le meilleur possible, dans l'autre sens?
Ben, on voit bien, là encore, je crois que tout citoyen, consciemment ou non, est confronté, enfin, qui cherche à voter encore une fois de façon éclairée, hein, par sa raison,
avec son intelligence,
se trouve un peu, enfin, à un moment ou à un autre, lors d'un scrutin ou d'un autre, hein, peu importe, confronté un peu à ces deux axes, si vous voulez. Voter en conscience, si vous voulez, c'est voter vraiment en plaçant, je dirais, à la première place, le respect de justement ses convictions éthiques, hein, les plus profondes, encore une fois, engageant la personne humaine, les communautés humaines, et puis évidemment la foi chrétienne, hein, ça va sans dire. Et puis, face à cela, un vote qu'on dirait en langage un peu technique, plus prudentiel, hein, au grand sens de la vertu de prudence, qui va vous conduire à chercher parmi ce qui vous est proposé, alors candidat, programme, parti politique, que sais-je, ce qui va tend vers le plus grand bien possible, sachant très bien qu'on peut pas atteindre la perfection totale du bien, hein, mais on va chercher à réaliser le plus grand bien possible, ou... dans certains cas, le moindre mal possible, en se disant, ben voilà, au moins, ben, celui-ci, c'est peut-être pas parfait, mais tel autre, ce serait tellement pire. Vous voyez, on a coutume de dire j'incline à dire que, justement, le choix politique, sous ce rapport-là, oscille entre le meilleur possible et le moindre mal possible. Voilà. C'est dans la confrontation, si vous voulez, de ces deux axes, hein, vote en conscience selon ses convictions, vote en prudence, quelquefois on se trouve en porte-à-faux, voire prise en étau.
C'est une vraie alternative, une vraie confrontation. Alors comment on peut... pour cette dernière minute, là, comment on peut justement...
D'abord, c'est pas nécessairement une fatalité. Il n'y a pas nécessairement contradiction,
oui, hein, si vous voulez, oui, bon,
ou contrariété. Cela peut arriver, hein, sur des situations qu'on a rencontrées, c'est évident. Moi, je crois que dans ces cas-là, encore une fois, alors chacun est renvoyé justement à sa propre conscience, je veux dire, en tout cas, à sa propre raison, et dans la détermination de son choix. Il faut, et c'est là l'enjeu, c'est que de façon éclairée, si vous voulez, il fasse prévaloir ce qui lui paraît vraiment le meilleur pour la communauté à laquelle il appartient. En sachant que, dans certains cas, on peut être confronté à des situations quasi impossibles. Pour ma part, j'ai tendance à dire que nul n'est obligé, si vous voulez, de choisir entre la peste et le choléra, si jamais on est dans cette situation un peu dramatique.
Merci beaucoup, frère François Daguet, pour votre éclairage ce matin. Je donne rendez-vous aux auditeurs de Radio Présence lundi à la même heure pour le décryptage du premier tour de l'élection présidentielle. Nous serons en présence de Pierre Aiguy, qui est doctorant en sciences de l'information et de la communication, et nous scruterons avec lui les résultats de notre région.